Tout ce qui nous unit doit nous différencier, et ce qui nous différencie est justement ce qui nous unit. Note de Sentimentech, ou encore la différence de l'autre est le trésor savoureux de nos ressemblances, et nos ressemblances ne sont que le socle précieux de ce qui nous distingue.
Pascal Paradou.
Deux citations seulement, et les lieux communs, le bon sens, les certitudes, les manipulations forgées dans les réseaux sociaux Insta ou X volent en éclats, emportant les peurs et les stigmatisations sur leur passage. Deux citations extraites du nouveau livre de Patrick Chamoiseau, prix Goncourt en 92 pour Texaco, auteur prolifique s'il en est, avec plus récemment Le vent du Nord dans les fougères glacées, roman paru en 2022, Faire pays, et puis aujourd'hui cet essai Que peut littérature quand elle ne peut. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Ce titre est une question avec un point d'interrogation. Pourquoi vous riez ?
Non, mais c'est, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve que ça sonne bien.
Mais alors justement, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Que peut littérature quand elle ne peut ?
Oui, j'ai la réponse parce que je l'ai vécu personnellement il y a longtemps. Je me rappelle quand j'étais en terminale, j'avais un prof de lettres qui nous parlait beaucoup de littérature, du 16e, du 15e, 17e. Bon, on écoutait d'une oreille. Et quand il a commencé à nous parler de François Villon, tout a changé. C'est-à-dire que ses yeux se sont allumés, il commençait à avoir une espèce de joie intérieure comme ça qui l'amplifiait. J'ai vu ce que la littérature pouvait faire sur un être humain et comment la littérature pouvait transformer un pédagogue en quelque chose d'infiniment puissant qui allait au-delà de ce qu'il pouvait nous apprendre. Je l'ai vécu aussi lorsque j'étais enfant. Je me retrouvais très souvent tout seul à la maison et j'ai découvert une boîte que ma mère cachait au fond de la penderie où elle rassemblait, il n'y avait pas de bibliothèque, elle rassemblait tous les livres, les prix que recevaient mes frères et sœurs. C'était de beaux livres illustrés avec des images dorées, des gravures absolument incroyables. Et une fois, j'étais fouillé, puis comme c'était fermé à clé, je l'ai ouvert, comme on ouvre une boîte de trésors, et je prends un objet qui était Alice au pays des merveilles. Et chaque fois que mon ennui, ma désespérance d'enfant, mes angoisses me prenaient, je me glissais du côté de la boîte de pommes de terre, et je retrouvais mes amis parmi les livres. J'avais des amis parmi les livres, c'est-à-dire des stimulations artistiques, esthétiques, qui ont nourri mon enfance, qui a fait de moi un créateur.
Donc ce livre, c'est un plaidoyer pour la littérature. Alors, la littérature, les littératures, avec ou sans majuscule ?
Pour les arts en général. La littérature, c'est un art, je suis un artiste. Ma matière, c'est le langage. La forme utilisée, c'est toutes les formes que prennent les expressions humaines. Et l'acte de création capture en général des forces agissantes. Par exemple, dans le roman Texaco, la force qui a été examinée, c'est la force urbaine. Comment elle transformait les vieilles sociétés coloniales nées du système plantation. Ce qui fait que lorsque je regarde un petit peu le monde, parce que très rapidement, comme nous sommes un peuple composite, nous sommes composés d'Amérindiens, d'Africains, d'Européens, d'immigrants. Donc, on a une sorte d'élargissement sur le monde. Et je vois que l'expression humaine en matière de narration est un fleuve d'une diversité absolument incroyable. Ce qui fait qu'il y a des littératures dans le monde. Et ces littératures-là, elles ont chacune leur particularité, leurs urgences, leurs problèmes, leur contexte. Mais il y a quelque chose par-dessus. C'est pas un universel, c'est pas la littérature. C'est plutôt une quintessence de cette diversité-là qu'il nous faut à la fois vivre cette diversité, la laisser s'exprimer dans les différentes modalités qui sont les leurs, mais en même temps rester dans l'idée qu'il y a quelque chose quelque chose qui définit cet art, qui reste indéfinissable, mais vers lequel nous pouvons rêver.
Mais face au chaos du monde, aux guerres que l'on connaît aujourd'hui, aux morts par milliers, vous semblez répondre, Patrick Chamoiseau, que la littérature peut tout. Moi, je trouve que c'est un peu désuet comme réponse. Non, ça pourrait l'être, en tout cas.
Oui, non. Ce que je dis, c'est que ce que j'ai beaucoup analysé un petit peu les conditions d'émergence de la littérature orale dans les plantations esclavagistes. Et même quand je vois les grands auteurs qui me passionnent, je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours confrontés à un impossible. Il y avait toujours une sidération. Le conteur créole, quand il va se lever dans une plantation esclavagiste, il est dans la déshumanisation totale. C'est-à-dire les captifs africains sont transformés en animaux, le vivant, tout le vivant est réifié. On est dans la nuit coloniale et esclavagiste. Et pourtant, là, il n'y a pas possibilité d'être humain. Il n'y a plus que des corps qui sont traités comme des animaux et à qui on ne demande pas ni de penser, ni de rêver, ni surtout de s'exprimer. Et pourtant, c'est face à cet impossible que la majesté de maître de la parole va apparaître et qu'il va devenir un résistant de l'intérieur. Pareil pour Césaire. Quand dans les années 30, Césaire écrit le cahier de repos au pays natal, qui n'est pas un poème, qui est un organisme narratif. Quand il publie ça, il est dans la nuit coloniale, c'est-à-dire l'Afrique n'existe pas, c'est un lieu de sauvagerie, les Noirs sont dénigrés de manière absolument incroyable, et les colonisés ont intériorisé le fait que le récit blanc occidental pouvait dire le monde était à sa juste place dans la domination du monde. Là, ils ne pouvaient rien faire. Normalement, ils n'auraient pas pu écrire, ils n'auraient pas pu exister. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déchirer tous ces petits poèmes d'adolescents où il n'avait pas interrogé la problématique d'ensemble, où il ne s'était pas confronté à l'impossible régnant. Et une fois qu'il a considéré domination occidentale, colonialisme, déchéance de l'Afrique, damnation du mot nègre, il a pris tout cela et il en a fait une gerbe créatrice. Donc c'est quand la littérature ne peut qu'elle trouve la base de sa puissance.
Donc elle permet de rêver d'un autre monde.
Voilà, c'est-à-dire que ce que j'ai compris aussi en analysant, j'analyse beaucoup le système des plantations des Amériques, parce que c'est la cheville ouvrière à la fois de la globalisation du monde, et dans cette colonisation, qui sait qu'est-ce qui va apparaître ? C'est le capitalisme. Il y a une telle accumulation de capitaux du fait de l'esclavagisme et de l'exploitation du vivant du Nouveau Monde, que le capitalisme va prendre un essor mondial et va nous imposer ce marché monde qui aujourd'hui et le nôtre. Et nous retrouvons dans une période charnière. Et c'est cette période charnière-là qui, à mon avis, est une période fondatrice, refondatrice. Et qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là ? Ce que l'esclavagiste va supprimer chez l'Africain qui l'a capturé, c'est qu'il va le réduire à son corps. Il va le réduire à une sorte d'animalité biologique. Il devra travailler jour et nuit, on peut le fouetter, on peut le tuer. Il n'y a plus d'être humain, il n'y a qu'à la partie prosaïque, c'est-à-dire la partie la plus élémentaire. On se lève, on marche, on travaille, on transpire, etc. Donc il a éliminé tout le poétique. Et le poétique humain, c'est quoi ? C'est tout ce qui ne relève pas du prosaïque, c'est-à-dire le prosaïque, c'est survivre, manger, résister, se créer, vivre en sécurité. Et le poétique humain, c'est tout le reste, c'est-à-dire une manière d'envisager l'existence de manière complètement, je dirais, célébrante et émerveillante, et d'ornementer les nécessités du prosaïque d'une extension créatrice. C'est le poétique qui fait de l'être humain un créateur. Donc, sous domination, il n'y a plus de possibilité de créativité, donc il n'y a plus de possibilité de renverser la petite réalité dominatrice qui nous est imposée.
Donc, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, comme disait Raymond Barre à une époque en France. Et surtout, j'ai l'impression que vous êtes un homme optimiste. C'est un livre optimiste.
Non. Moi, je crois qu'on n'est pas... Le créateur n'est pas ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme. Le créateur est dans la création. C'est-à-dire que moi, je pense que dans cette désespérance qui est la nôtre, qui ressemble à toutes les désespérances que les grands poètes, les grands artistes ont connues à une époque, il ne faut pas sous-estimer la puissance artistique. la puissance des arts, la puissance des politiques culturelles. On sous-estime tout ça. On cherche des partis politiques, on cherche des syndicats. Bien sûr, on cherche une pensée d'action, mais il y a un mode de connaissance sensible qui est un mode de connaissance qui est basé sur la capacité à déclencher en soi suffisamment d'espace en sorte de pouvoir considérer des données du réel qui dépassent le petit cadre de la domination qu'on veut affronter. Et c'est dans cette amplitude de perception du réel que l'on a la possibilité de recombiner des éléments et de penser et de créer un autre monde. Si Sapiens est un créateur de monde, c'est que parce que fondamentalement, Sapiens est un créateur.
Patrick Chamoiseau, dans la multitude des récits et des littératures, nous allons poursuivre cet échange, mais après avoir écouté le groupe L'Amomali, qui sort un titre en hommage à Toumani Diabaté, et derrière ce nom L'Amomali, il y a Mathieu Chédid, Fatoumata Diawara, et Bella Diabaté, Je suis Mali.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali, et le cœur ébloui dans l'infini Sahel, que ta lumière est belle, ta magie. Je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Dans cet infini Sahel, que ta lumière est belle, voyage en solitaire pour toucher ta magie, noire ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali.
Le groupe L'Amomali sur RFI en hommage à Toumani Diabaté, cet immense joueur de kora décédé en juillet dernier. Patrick Chamoiseau, dans votre nouveau livre « Que peut littérature quand elle ne peut ?», vous parlez beaucoup de l'écriture, mais vous dites aussi que l'écrivain est le frère le plus intime du musicien. C'est une question de son.
Oui, c'est peut-être une question. Ouais, c'est une question d'expression. Je crois que l'expression humaine commence par le geste. Par le signe et par le son. Et c'est le son qui va progressivement, par ces harmoniques qui vont se déployer à l'infini, constituer les bases de l'expression et du langage. Ce qui fait qu'un poète, c'est quelqu'un qui habite la langue de manière, je dirais, singulière. Un poète, c'est quelqu'un qui déploie une autorité dans la langue et qui confronte la langue à un indicible du réel. Un poème, c'est quoi? Un poème, c'est simplement quelque chose qui essaie de capturer un indicible, un inconnaissable, une intuition imperceptible. Et le poète nous ramène comme ça des extensions du côté du réel. Il élargit notre perception. Et à partir de là, toute écriture artistique dans la langue, c'est véritablement aller chercher avant la langue, après la langue, au-delà de la langue, au-dessous de la langue et au plus profond de la langue. Ce qui fait que toute écriture artistique amplifie considérablement l'espace d'une langue. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans les temps précédents, si on prend Balzac, j'exagère un peu, mais Balzac n'avait pas problématisé la langue française. Pour lui, la langue française suffisait à épuiser un petit peu ses explorations du réel. Mais l'écrivain contemporain, il entend toutes les langues du monde. Il sait que toutes les langues sont belles. Et chaque langue, c'est autant de visions possibles. Et lorsqu'il fait son travail d'autorité dans une langue, il a le désir imaginant de toutes les langues du monde. Bon, c'est ça la fonction du langage. Ce qui fait que la littérature est fondamentale parce qu'elle amplifie le pouvoir de rayonnement de langue. Elle permet à la langue de rejoindre la musique, de rejoindre la danse, de rejoindre tout ce que vous voulez. Mais surtout, elle déclenche dans la vie culturelle une extension qui est absolument profitable.
Mais cette écoute des langues, cette écoute de l'oralité, est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous appartenez à cette culture créole où la parole et la musique étaient premières?
La parole et la musique ont été déterminantes dans le système des plantations. Pendant longtemps, on a cherché quels étaient les résistants au système esclavagiste et colonial, et on s'est beaucoup attardé sur le nègre marron. Mais les nègres marrons n'étaient pas les plus nombreux. Nos ancêtres sont restés en majorité dans les plantations. Et c'est dans les plantations qu'ils ont pu déployer une activité créatrice. Et le tout premier résistant, ça a été quoi? Ça a été le sorcier, c'est-à-dire il a pris des plantes. Mais le sorcier, c'est qui? C'est le père du poète. Chez les Homo sapiens, c'est celui qui est en face des mystères, de l'invisible, des dieux. Avec ses premières prières, les premières incantations qui sont des poèmes, il va donner le poète. Ensuite, qu'est-ce qui vient comme résistant? Le danseur. Le danseur déploie une autorité dans un corps abîmé, un corps asservi, un corps qu'on a séparé de tout son poétique. C'est une puissance de création. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Le chanteur. Le chanteur, c'est quoi? C'est la préparation du langage. Il va prendre toutes les mélopées africaines, il va commencer à les étirer. Et comme il n'a que des traces, hein, il n'a pas le système complet, il va commencer à improviser. Et tout le monde improvise. Et tout ça va donner naissance à la parole, à l'oralité très singulière du conteur créole, qui n'est pas l'oralité du griot. Le conteur, quand le griot se lève, il a toute la culture communautaire qui lui donne sa partition. Mais quand le conteur se lève, conteur créole dans la plantation, il est seul. C'est un individu qui n'a personne ne lui a demandé de parler. Il va improviser à partir de toute son expérience et à partir de son refus de la situation qui lui est faite. Ce qui fait que toutes les cultures de la Caraïbe et toutes les cultures des Amériques commencent par la danse, la musique et le chant.
Et vous êtes le descendant de tout cela, d'une certaine façon.
De tout cela, mais comme on est dans une situation de créolisation, donc de relation, je relève aussi de toutes les bibliothèques du monde. Je relève d'une condition particulière qui recommence un peu l'histoire des expressions humaines, mais je suis constitué d'une bibliothèque et d'une oraliture.
Est-ce un frère, est-ce un maître? Vous lisant Patrick Chamoiseau, on pense forcément, et vous le citez souvent beaucoup, à Édouard Glissant, qui a souvent évoqué d'ailleurs le fait d'être antillais.
Nous, antillais, nous sommes le produit d'une course, de la course des découvreurs, de la course des Africains qu'on a déportés dans les îles des Antilles et dans les Amériques. Et que nos pays, les pays antillais, sont des pays qui emportent la marque. Ce sont des pays de transition, de passage, d'équilibre instable, de parole frêle et ambiguë, ce que j'appelle la parole archipélique. Et que ces personnages veulent éprouver ça dans le monde, voir si le monde est comme ils pensent qu'il est. Et ils découvrent que le monde est en effet un monde qui se créolise, un monde qui se touche, qui se multiplie en lui-même. Et ils en éprouvent une sorte de confirmation de leur être propre.
Ce qu'évoque Édouard Glissant, c'est la pensée de la relation. C'est un concept qu'il a théorisé tout au long de sa vie, que vous reprenez aussi, puisque vous nous dites que la vie est relation.
La vie est relation. Quand on regarde un écosystème vivant, ce sont des puissances d'exister. Hein. Chaque être vivant, c'est une puissance d'exister. C'est comme une espèce d'énergie. Mais chaque être vivant est en relation avec les autres êtres vivants. Ce qui fait qu'un écosystème de base est un écosystème relationnel. En plus, non seulement l'organisme qui est constitué par les relations de tous ces êtres vivants est lui-même ouvert, ce qui fait que l'écosystème, c'est quelque chose qui devient sans cesse, qui s'accomplit sans cesse et qui évolue sans cesse.
Donc non à la fermeture, ça c'est la mort d'une certaine façon, et notre devenir, écrivez-vous, c'est de devenir monde.
Exact.
Il n'y a pas d'autre issue que la rencontre et la relation.
Voilà, c'est-à-dire que même si on n'avait pas eu la colonisation occidentale, il me semble qu'à un moment donné, les communautés archaïques qui emprisonnaient d'une certaine manière les individuations, qu'elles se seraient rencontrées. Peut-être qu'elles ne se seraient pas rencontrées sur la base de la brutalité, du génocide, du racisme, comme on l'a connu. On aurait pu avoir une autre histoire du monde où progressivement, toute la diversité de l'expérience humaine serait entrée dans des processus d'interrétroaction et on serait rentré peut-être paisiblement et poétiquement dans un monde relationnel. Mais on n'a pas eu cette chance. Aujourd'hui, l'idée coloniale, la pensée coloniale imprègne le capitalisme. Ce qui fait que ces notions de racisme, ces notions de fermeture, le vieil imaginaire communautaire exclusif de l'autre ne correspond plus à ce que le monde devient du fait des accélérations technoscientifiques, des écrans et des dynamiques de toute nature.
Mais c'est pourtant, si on regarde du côté des États-Unis en ce moment, ce qui se passe, non ?
C'est-à-dire...
La fermeture, l'exclusion...
Ah oui, oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que nous sommes habitués au vieil imaginaire communautaire. Ma peau, ma langue et la communauté limitent l'expression individuelle. Et ces communautés sont désormais confrontées à quoi ? À la globalisation, d'abord à la globalisation économique avec tout son cortège d'exploitation, de précarité, mais ils sont aussi confrontés, notre imaginaire ancien est confronté à la mondialité. Et c'est quoi la mondialité ? C'est la rencontre de toutes les richesses, toutes les merveilles humaines, toutes les cultures, toutes les musiques, toutes les danses, toutes les cuisines. On regarde bien le monde, nous sommes dans un bain relationnel. Et pire, les individus sont extrêmement mobiles. Les gens se marient de manière complètement erratique, complètement imprévisible. Et les enfants naissent entre plusieurs cultures. Il y a un autre monde qui n'est pas la mondialisation économique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'imaginaire ancien a peur. Quand on voit arriver le monde, on sent que la relation traverse, que ma fille a épousé un Japonais et qu'ils sont en Islande, le vieil imaginaire se met à trembler. Et l'extrême droite, c'est quoi ? C'est le passé. Trump, c'est quoi ? C'est le passé. On ferme les portes, on ferme les fenêtres, on se replie comme ça sur son égo dominateur et on va vers la mort.
Alors, fort de cette conviction, vous dites que pour la littérature, c'est la même chose. Et vous citez dans ce livre, Patrick Chamoiseau, tous les auteurs qui ont marqué votre vie dans ces relations, comme ça, ceux qui vous ont formé. C'est ce que vous appelez la sentimentèque, c'est ça ? C'est quoi ?
C'est une bibliothèque du sentiment.
C'est une bibliothèque du sentiment.
C'est-à-dire qu'on est constitué de stimulations esthétiques et artistiques. Chaque être humain est une complexité en devenir. Il n'y a aucune fixité. Et nous sommes nourris par ce que nous recevons, ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui nous horrifie, ce qui nous fait peur, mais aussi ce qui nous émerveille. Ce qui fait que moi qui ai vécu avec des stimulations littéraires, esthétiques, artistiques assez intenses, je suis entré dans une sorte de devenir, je dirais, de devenir qui est un devenir monde. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mon arbre généalogique, si je fais mon arbre relationnel, on voit apparaître à peu près toutes les contrées du monde. Et quand je suis arrivé en France, moi, venant des Antilles, je me suis dit, j'arrive au pays de Montaigne, j'arrive au pays de Brassens, j'accède à des personnages qui m'ont accompagné par les livres toute mon enfance. Donc, vous voyez ce tissu extraordinaire relationnel, nous n'en avons pas conscience. Et c'est le rôle aujourd'hui de l'expression artistique et esthétique que de révéler le tissu relationnel dans lequel nous devons nous accomplir.
Et vous citez François Villon, Rabelais, Cervantes, Céline, ouais, Joyce, la amis. Bible, le Coran, Diderot, Faulkner, Garcia Marquez. Et puis vous citez aussi Franck Étienne, le poète peintre haïtien qui vient de disparaître il y a quelques jours.
Il y a l'engagement esthétique. Et à côté de l'engagement esthétique, il y a l'autre qui tout naturellement s'impose, surtout dans un pays comme Haïti. La matière politique, elle est tellement présente. La substance du vivre au quotidien et au premier degré, cette substance, elle t'assiège. Peut-être aussi c'est le cas dans certains pays arabes qui se rapprocheraient de Haïti sur le plan du quotidien vécu. tu ne peux pas évacuer la misère et la dimension politique qui accable le citoyen haïtien. Il y a chez moi cette conjonction entre l'engagement idéologique et politique et l'engagement esthétique.
Franck Étienne, faut-il lui rendre hommage, Patrick Chamoiseau ? Quelle place a-t-il dans votre littérature ?
Il est infiniment puissant. D'abord, en ce qui concerne la langue créole, il est pour nous ce qu'on appelle un mapou, c'est-à-dire un des plus grands arbres de la forêt. Il a irrigué notre créativité et surtout la vieille petite langue dominée, toute jeune, qui est la langue créole avec laquelle nous nous débattons pour affronter le réel contemporain. Lui, nous avions tendance à faire illustration, défense et illustration de la langue. Quand on écrit dans une langue dominée, on essaye de la chouchouter. Et Franck Étienne, il va prendre la langue créole et dans un livre comme « Désafi », il va déployer toute la puissance du poétique, un avant la langue, un après la langue, un prolongement de la langue, un tremblement de la langue, un bouleversement total de la langue. Et il nous a montré que même dans une langue dominée, il ne faut pas qu'on oublie l'effervescence du poétique et que l'auteur, c'est une autorité qui se déploie dans toutes les expressions qui lui sont données. De ce point de vue-là, il a été fondateur. Quant à la puissance créatrice, aussi son engagement en Haïti, il n'a jamais quitté Haïti, malgré les horreurs des tontons macoutes, la misère, etc. Malgré tout ce prosaïque comme ça qui éteint l'énergie humaine, il est resté, et il était quoi sa maison ? Sa maison, c'était comme un rayonnement poétique dans toute la misère du quartier où il habitait. Et d'ailleurs, à sa mort, il y avait des centaines et des centaines de personnes du quartier qui n'avaient pas besoin d'avoir lu ce qu'il... mais qui percevaient ce rayonnement fabuleux, qui était un rayonnement d'amour, de sensibilité, d'émerveillement, d'ouverture à l'autre, enfin quelque chose qui relève un peu de la puissance poétique.
Mais de l'engagement aussi, de l'engagement comme individu, comme humain.
Oui, mais il ne faut pas se confondre. À la littérature, la création est libre. Ce que la création amène dans le prosaïque, l'engagement, enfin la lutte politique que nous devons mener, elle est de l'ordre du prosaïque. Sécurité, défense, urgence, il faut le faire. Mais si on le fait en fermant la porte au poétique, c'est là que ça devient un petit peu sectaire. Et ce que faisait Franck Étienne, il dit oui, il y a une dimension politique immédiate, mais la littérature n'est pas au service du prosaïque. Tout ce que la littérature peut faire, c'est projeter dans les nécessités prosaïques le soleil du poétique. Et là, ça change tout. Le combat change tout. Quand on se bat contre une oppression avec le poétique, on a une noblesse qui permet l'espérance de tous.
Patrick Chamoiseau, avant de se quitter, j'aimerais vous entendre, non pas que je ne vous ai pas écouté, mais vous entendre lire une page de votre livre qui donne l'espoir d'un monde réenchanté.
L'humain est une vigilance. Il s'invente tous les jours, se vit à la question, se fonde en responsabilité humble vis-à-vis du vivant. Alors voici l'imploration. Que les littératures redeviennent capables, tels les anciens porteurs de feu, d'éclairer les gouffres obscurs en nous, autour de nous, de tout renouveler au vif de l'impensable. Que l'immense gerbe narrative des littératures du monde renouvelle les bases de notre esprit, conjure les entropies de la conscience, poursuive notre interrogation sur ce que peut l'humain confronté à l'effondrement de la biodiversité, aux phénomènes urbains, aux accélérations technoscientifiques, aux virtualisations du numérique, aux intelligences artificielles, aux énigmes décisives du cosmos. Par elles, nous pouvons imaginer des devenirs réenchantés du monde, interroger nos organisations, cartographier nos responsabilités, nos irresponsabilités, nos manques et nos ressources, l'ampleur des dépassements qu'il nous faudra oser pour vraiment considérer la vie.
Que peut la littérature quand elle ne peut ? Édité au Seuil dans la collection Libelle. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau.
Merci.
De vive voix, on se retrouve demain.